Merci Tiffaine et bon week-end. Quand la traduction se fait mission et hypothèse, Michel Volkovitch et Myrto Gondikas transmettent Rebetika et poésie grecque contemporaine. Laurent Nunez collecte des mots manquants de la langue française comme une promesse de vie nouvelle.
La Compagnie des Poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Michel Volkovitch, Myrto Gondikas, Laurent Nunez, bonjour, bienvenue à tous les trois. VO, merci.
Bonjour.
VO, VF, c'est le nœud qui nous occupe aujourd'hui. VO, VF comme du grec au français, et c'est le travail que mènent les éditions Le Miel des Anges, que vous avez fondé en 2013. Michel Volkovitch, minuscule maison, dites-vous, mais à tempérament boulimique, à son catalogue bientôt 6 anthologies de poésie grecque contemporaine, mais aussi Cavafis, mais aussi le prix Nobel Odysseas Elitis, mais aussi Andreas Empiricos, traduit avec votre secours, Myrto Gondikas, mais aussi deux précieux volumes de Rebetika, ses chansons de mauvais garçons qui dirent la misère, le hashish, l'amour, la mort, l'exil, du côté du Pirée à Athènes dès les années 20, VOVF comme la revue de poésie Phénix qui s'est notamment fixée pour mission et avec votre participation Myrto Gondikas de transmettre des textes issus de langues si peu parlées, voire à peine parlées. VOVF comme le titre du festival qui tient à Gif-sur-Yvette sa 6e édition ce week-end et à laquelle ça tombe bien, vous participez. Tous les deux, VOVF, enfin, et ça se corse avec vous, Laurent Nunez, écrivain, éditeur, critique, puisque votre version originale à vous bute sur l'absence de sa version française. Il nous faudrait des mots nouveaux, écrivez-vous aux éditions du Cerf, c'est-à-dire 13 mots choisis par vos soins, empruntés à l'allemand, au latin, au grec, au russe, au tchèque, des mots sans équivalent en langue française, une hypothèse de travail empruntée à Paul Valéry, tout est prédit dans le dictionnaire, et une hypothèse peut-être existentielle, des mots nouveaux pourraient bien nous faire une vie nouvelle.
Voici le soir au ciel se fane, des milliers de fleurs et le vent joue ainsi qu'un tzigane, ses vieux refrains en sorcelant. Ouvre tes bras que s'y blottissent mon besoin d'être caressé. Ouvre tes bras que s'accomplisse le miracle dont j'ai rêvé. Des mots nouveaux, je voudrais inventer des mots que nul jamais n'ait dit encore. Des mots joyeux, tendres et sonores, des mots nouveaux pour chanter selon mon envie le plus bel amour de ma vie.
La voix de Lina Margie, la vedette populaire, comme dit la pochette, en 1933, je crois, des mots nouveaux chante-t-elle, et même si la fin de la chanson, qu'on ne va pas écouter, hélas, nous dit que les mots, même nouveaux, ne disent au fond pas grand-chose face au baiser de l'homme aimé et à ses mains brûlantes. Ce sont eux que vous appelez de vos voeux dans un petit essai en 13 chapitres méthodiques, Laurent Nunez, qui paraissent aux éditions du Cerf. Et vous aimez la méthode, hein. On se souvient d'un précédent ouvrage qui décodait les énigmes des premières phrases. À chaque mot trouvé dans une autre langue, son décodage, à nouveau, d'une certaine façon, sa prononciation, ça c'est gentil pour nous, ses ingrédients, c'est-à-dire ses écrivains et poètes qui, sans connaître ces mots, les auraient approchés d'une certaine façon ou révélés. Est-ce qu'il y en a eu un en particulier qui aurait déclenché ce projet, Laurent Nunez, ou dit autrement, est-ce qu'il y en aurait un qui incarnerait le mieux ce que veut dire votre entreprise ?
C'est celui qui clôt le livre. C'est un mot de Sidoine Apollinaire qui, un jour, dans une lettre, invente un verbe qui n'existait pas et qui, quelques années plus tard, invente le contraire de ce verbe aussi qui n'existait pas. Il invente deux verbes. Takiturire, avoir envie de se taire. Voilà. Et scripturire, avoir envie d'écrire. Comme si derrière les deux étaient liés. Et j'ai découvert, à la fois chez Quignard, mais juste qui dans Le Dernier Royaume, le notait juste d'une phrase. Et puis chez Barthes, dans la préparation du roman, je crois. Barthes, le scripturire, il appelle ça le vouloir écrire. Et il fait toute une année sur le vouloir écrire. Ça a dû le passionner. Moi, ça m'a passionné, l'idée qu'il y avait quelqu'un, Sidon Apollinaire, qui était le gendre de l'empereur, qui, après avoir...
On est au 5e siècle.
Oui, à peu près. Oui, on est au 5e siècle. On est à la fin de l'empire romain qui va être envahi. Et il y a Sidon Apollinaire qui est persuadé que tout va bien. Il côtoie tous les puissants. Il écrit des odes à tous les empereurs qui se succèdent comme ça. Et puis, tout d'un coup, les Vandales arrivent. L'empire est détruit. Et cet homme va échouer à Bordeaux. Et là, il va écrire à son ami, éditeur, il va écrire ce verbe-là, quoi. Avoir envie de se taire. Je trouve ça beau parce que c'est pas se taire, hein, d'ailleurs. C'est utiliser le langage pour dire qu'on a plus envie d'utiliser le langage. Et voilà, c'est quelque chose qui, moi, me marque beaucoup. Et parce que je crois que avoir envie de se taire et avoir envie d'écrire, c'est une seule et même chose.
Oui, parce que vous passez par quelques détours, effectivement, pour ce dernier chapitre, et notamment en vous appuyant sur l'idée de Deleuze, selon laquelle la parole serait sale.
Parler, c'est sale, écrire, c'est propre.
Écrire, c'est propre, ce que finalement vous contestez, au fond, puisque écrire peut être parfaitement sale.
Bah, c'est-à-dire que...
Parler propre.
Oui.
Alors, parler propre, c'est plus difficile, hein, dans la mesure où il y a forcément l'interlocuteur qui...
Bah, on peut être déçu toujours, parce que Sidon Apollinaire, il adorait, il voulait écrire. Et arrêtez de parler. Et on a ces textes. Ces textes, je les ai lus, ils sont imbuvables. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de rhétorique, de fausses rhétoriques, de mythologie. Il n'y a rien de sincère en lui. Vous savez, je pense, ou j'espère en tout cas, que l'écrit est plus intime que l'oral. Parce qu'on le rature, parce qu'il y a moins de la société en nous, il n'y a pas de clichés et tout, on est là, on peut raturer et faire advenir quelque chose de plus profond. Et chez Sidon Apollinaire, c'est le contraire. Donc du coup, le pauvre, c'est ce que j'essaye de dire dans le livre, même quand il écrit, en fait, il ne fait que parler.
Alors, puisqu'on en est au rayon méthode, Laurent Nunez, je me demandais comment vous aviez procédé, c'est-à-dire comment chercher dans cette matière infinie. Est-ce que vous en êtes passé d'abord par la littérature, parce qu'on verra que ça s'agit aussi d'un livre qui dit d'abord la littérature, avant de dire les mots.
J'essaye, là je prends 13 mots qui pourraient changer la vie des gens, et je montre en fait que ces mots, leur notion en tout cas, si elle était inconnue entièrement de la langue française et donc de nos esprits français, puisque nous sommes formatés par la langue que nous avons apprise, je montre qu'en fait ces notions-là existaient déjà à l'intérieur des grandes œuvres françaises ou européennes.
Si on admet l'hypothèse, évidemment, hein, que la langue formaterait nos existences, comment est-ce qu'il faudrait comprendre la version, disons, complotiste, hein, de la langue que vous glissez au tout début, hein, celle d'Orwell, hein, dans 1984, lorsqu'il écrit « Si ces mots n'existaient pas, parce qu'ils nous étaient nécessaires ».
Si j'y sais, parce qu'en fait, j'imagine que... Moi, je pense que tous les mots existaient et que ceux qui sont inutiles ou dangereux, on les a enlevés. Vous savez, c'est la notion... Chez les grammairiens, par exemple, les grammairiens vous expliquent qu'il n'y a pas... La notion de synonyme ne tient pas debout. La langue est économe. Il n'y a pas de synonyme. Les grammairiens acceptent la notion de parasynonyme, à la rigueur, des mots qui se ressemblent, qui iraient vers le même chemin, mais qui ne soient pas pareils. La langue est très économe.
Alors, parmi les 13, il y a là le Freizeitstress, qui est emprunté à l'allemand, qui dirait l'angoisse du temps libre. Le Gigil, pris aux Philippins, qui dirait la tension qui surgit en nous devant quelque chose d'insupportablement mignon. Le Mamila Pinatapai, venu de la province de Terre de Feu, lui, qui évoquerait, je cite, « un regard partagé par deux personnes, chacun souhaitant que l'autre initie quelque chose qu'ils désirent tous les deux, mais qu'aucun n'ose commencer ». Suit également Lictorpouk, emprunté aux Inuits, qui dirait « l'excitation qui nous pousse à sortir sur le pas de la porte pour vérifier si quelqu'un arrive ». Ou encore le Kintsugi.
Oui, c'est ça.
Collecté au Japon, lui, qui dirait l'art de réparer avec de l'or, voire le fait d'être honoré d'avoir été cassé. Alors, pour beaucoup, vous l'avez dit, Laurent Nunez, ce sont des sentiments, ou en tout cas des affects, beaucoup voilés par une certaine mélancolie, avec, en tout cas avec l'idée de la brisure, de la perte, de la déception, de l'attente, de l'incompréhension. Qu'est-ce que cette sélection-là raconterait, ou en tout cas raconterait, de ce qui vous manque à vous, ou de ce qui ouvrirait vos horizons à vous?
La première chose qui me vient, c'est là, comme une sorte de résistance, c'est une phrase de Valérie qui dit « cache tes idoles ». Comment vous dire? Un essai, c'est une manière complètement cachée de raconter des choses très personnelles. Par exemple, je peux le dire, là, c'est pas grave, le tout dernier chapitre, Takitu Rire, sur Sidon Apollinaire, et il raconte aussi comment, pour moi, c'est comme ça que je l'ai écrit, il raconte comment je me suis fait virer un jour d'un journal, voilà, vraiment comme un malpropre, avec l'actionnaire qui m'a promis de me garder le matin et qui l'après-midi m'a embrassé sur le front et m'a dit « désolé, j'ai pas réussi à te garder », et moi qui décide d'arrêter le journalisme et de faire la chose que j'aime, des livres, de devenir éditeur, d'aller au CER et d'écrire des livres. Voilà. Pour moi, c'est, vous voyez, c'est ça. La trame arrière, c'est moi qui décide de raconter ce petit changement. Mais comme j'ai pas envie de le raconter parce que c'est pas intéressant, parce que c'est mon histoire, eh ben, je regarde Sidon Apollinaire et je me dis que ce type, il y a très longtemps, à un moment, il en a eu assez, comme je le dis, de célébrer les rois et les empereurs, etc. Il a voulu écrire des poèmes que je trouve pas très bons. Et alors, lui, il a été très heureux de les écrire.
Le Freizeitstress dont je parlais tout à l'heure, donc emprunté à l'allemand, hein, qui dirait ouais. Cette angoisse du temps libre. Dans ce chapitre-là, vous citez Brel, hein, un entretien tout particulier d'octobre 66, hein, alors qu'il venait juste de dire qu'il arrêtait en fait les tours de chant, qui est un extrait qui aurait très bien pu aller aussi pour Sidon Apollinaire, parfaitement bien même, pour ce dont vous venez de parler. On l'écoute.
La question qu'on se pose, bien sûr, c'est oui ou non, abandonnez-vous la chanson?
La chanson, non.
Le tour de chant, alors?
J'aime pas le mot abandonner.
C'est une démission, ça, abandonner.
Ah, oui, non, parce que c'est un côté Tour de France. J'arrête. J'arrête de chanter.
Il y a quand même des raisons d'abandonner. On n'abandonne pas comme ça, on laisse pas tomber le public, selon la phrase consacrée.
Mais non. Il y a 15 ans que je chante.
Oui.
Et c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. Mais là, j'ai envie de respirer un peu.
Mais ça correspond quand même à une certaine misanthropie.
Non.
Vous avez écrit, vous avez écrit ces gens-là. Est-ce que c'est ces gens-là que vous voulez suivre?
Non, pas du tout.
C'est pas du tout. Les gens que vous vous arrêtez.
Non. Vous lisez trop. Non, c'est pour aller voir, c'est pour avoir le temps d'aimer, justement. J'ai un rythme de vie où j'ai peut-être plus très bien le temps d'aimer. J'ai envie d'aller voir, de regarder, de m'offrir le temps de me taire. C'est bon, ça. C'est ça que j'ai envie. Tout ça. Ça s'appelle la liberté.
Enfin, quand même, pour toute une, disons une jeunesse, par exemple, pour
oui.
Les gens qui vous ont suivi pendant ces 15 ans, ceux qui vous ont accepté d'emblée,
oui.
On a l'impression que vous vous retirez presque bourgeoisement, une fois fortune faite, vous dites, bon, mais maintenant, je m'arrête, je retourne chez moi. Ça vous gêne pas un petit peu?
Votre question me gêne parce qu'elle est fausse complètement, votre question. Je suis pas à vendre. Comprenez? J'ai pas envie d'être à vendre, je ne suis pas à vendre.
En quoi cet extrait-là, Laurent Nunez, pourrait illustrer ce que vous appelez la guerre du négocium contre l'osium?
Moi, c'est un sujet qui m'a toujours marqué, le temps qu'on a dans la vie. C'est, par exemple, c'est comme ça que s'ouvrait mon roman Les Récidivistes, où quelqu'un essayait de compter comment compter des vies bonnes. En vin bu, en amis, en livre écrit, en femme, en argent en compte bancaire. Comment on fait pour compter une vie bonne? Et ça m'a beaucoup, je sais pas, ça me marque, le temps qui passe. D'ailleurs, c'est un chapitre qui s'appelle les chronophages. Vous savez, auparavant, dans la civilisation romaine, le rêve de tout homme éclairé, c'était l'osium. C'est-à-dire que il y avait un temps qui était le temps où on se consacre, où on s'éduquait, le temps des amis. Le temps de la lecture, le temps où on faisait en sorte de devenir un bon citoyen, donc on étudiait les lois, etc. Voilà, c'est qui est pas un temps perdu, qui est pas ne rien faire, c'est voilà, c'est profiter de la vie pour se construire. Et ça, c'est l'osium. Et ensuite, ce temps-là qui doit être majeur, peut-être même exclusif.
Dans certaines catégories de la population.
Dans celles, évidemment, c'est pour ça. Ouais. Dans celles qui avaient la chance de ne pas avoir à gagner leur vie. Et ben, ensuite, on a inventé un autre mot qui est le contraire, qui est le négocium. Le neg montre bien que c'est le contraire de l'osium. Et le négocium, ça donnait chez nous le négoce, c'est-à-dire tout à coup la marchandisation, le travail. Et vous voyez bien, avant, l'idée c'était d'abord de se construire et ensuite de travailler. Si vous regardez comment se construit la société actuellement, tout est fait d'abord pour le travail.
C'est l'inverse, exactement l'inverse.
Ouais, et ensuite, le repos. La semaine, elle commence pas le dimanche. Hein. La semaine, elle commence le lundi. Du lundi au vendredi, on travaille. Et parce qu'on a travaillé, ensuite, on peut se reposer. On travaille 40, 42, 44, je ne sais pas jusqu'où les gouvernements voudront en nombre d'années travailler. Et ensuite, on a la retraite. C'est-à-dire que d'abord, c'est le négocium et ensuite, c'est l'osium. Alors que pendant des siècles et des siècles, c'était d'abord l'osium, s'il vous plaît. Et ensuite, un peu de temps pour le négocium.
Alors, je voudrais revenir, Laurent Nunez, aussi sur un mot en particulier, qui est extrêmement difficile à prononcer, mais que j'aime beaucoup malgré tout, donc qui est Iksuarpuk, qui viendrait de l'inuit, et que vous traduisez par l'excitation qui nous pousse à sortir sur le pas de la porte pour vérifier si quelqu'un arrive, qui est une notion extrêmement précise. Et vous convoquez, pour ce chapitre-là, Hölderlin, Diogène, Barthes, dont on sent que l'ombre plane bien sur l'ensemble de l'essai. Barthes et son fameux « suis-je amoureux ?» Oui, puisque j'attends. Hein. Donc vous montrez bien toutes les applications éventuelles qu'il pourrait y avoir à ce terme-là. Qu'est-ce que ce serait exactement que ce mot-là? Qu'est-ce qu'il énoncerait exactement?
L'Iksuarpuk, c'est en effet, ça vient de l'Inuktitut, qui est la langue des Inuits. C'est, vous savez, on attend tous, on peut tous attendre que quelque chose arrive. C'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est le fantasme. Mais les Inuits ont un mot pour dire cette chose-là. Se mettre dans une situation inconfortable pour attendre. C'est-à-dire qu'on n'attend pas sur son fauteuil. L'Iksuarpuk, ça n'existe que dans les contrées inhospitalières où il y a une densité de population très faible. C'est-à-dire on est au chaud, on est chez soi et on a envie que quelqu'un arrive. On a envie de voir quelqu'un. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la porte et aller dehors. C'est-à-dire qu'on va geler dans l'espoir de se réchauffer à la vision de l'autre qu'on attend.
C'est-à-dire la joie d'être bientôt joyeux.
Oui, comme vous c'est, dites. Ça. Ouais, ça, c'est une sorte d'anticipation. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Tout à l'heure, vous demandez quelles sont les choses cachées. Mon plus bel Iksuarpuk, c'est qu'à un moment, un jour, j'étais en Belgique voir une expo un peu ennuyeuse. Je suis revenu chez moi, j'étais très fatigué. Un de mes amis m'appelle en me disant « Viens, c'était le jour de la fin du monde, vous savez, le 21 décembre 2012. » Il dit « Viens, on fait une fête quand même pour la fin du monde. Viens. » Et voilà, mon avenir, c'était de dire « Non, je reste chez moi. » Et j'y suis allé. Et c'est encore très Barthes, très fragment d'espoir amoureux. Et j'ai vu une personne dont je suis tombé follement amoureux. Et je suis toujours avec elle. Je ne m'y attendais pas. Le futur m'est tombé dessus. Le futur, c'est ce qui donne de la vie. Vous savez, un jour, peut-être, tout sera prévisible. C'est Minority Report, quoi. Tout sera prévisible. Ce moment où les choses, le non prévisible, ça sera génial. C'est ce que Musil appelle, j'adore mon Musil, ce que Musil appelle le non ratioïde. Vous savez, il y a dans l'homme sans qualité, il y a ça, il y a le ratioïde qui est tout ce qui est prévu, et le non ratioïde, c'est ce qui tout d'un coup, ça m'en peut dire, c'est tout ce qui déconne. Dans le roman de Musil, vous savez, ça commence par la pluie, il pleut, et c'est génial, il y a ça, tout est prévisible, c'est normal, il y a un décor, et tout d'un coup, il pleut, il y a des lances quoi qui tombent du ciel. Et les gens, ils font des choses. On ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent ces choses-là. Ça court, ça saute dans les flaques et tout. Ce qui est important dans la vie, pour moi, c'est surtout pas ce que j'ai prévu. Voilà, ce que j'ai prévu de faire.
Qu'est-ce qui ferait alors de Gide, hein, le plus grand écrivain de l'Iksuarpuk?
Alors pour ça, je suis obligé de reprendre le livre parce que Gide a une grammaire. Enfin, il a une grammaire tellement géniale que je peux pas de mémoire la citer. Je suis pas génial. C'est dans les cahiers de la petite dame qui était le témoin de sa vie. Gide, elle notait tout et elle raconte cette anecdote qui moi m'a frappé. C'est Gide, parfois il allait dans les restaurants et dans un restaurant quand il avait très faim et il commandait quelque chose qu'il n'aimait pas. Voilà, moi ça je trouve ça génial et voilà ce qu'elle écrit. Il me déconcertait quand il commandait un plat qu'il disait ne pas aimer. Bah, justement, disait-il, j'ai assez faim pour manger une chose que je n'aime pas. J'en profite pour voir, on ne sait jamais.
Alors, Gide est présent un peu partout, enfin pas tout à fait partout, mais en tout cas dans au moins 7-8 des mots que vous avez choisis, notamment présent dans le chapitre consacré au kintsugi, hein, qui est donc cet art japonais.
De réparer avec de l'or.
Qui consiste à réparer avec de l'or. Et donc vous citez Gide, hein, qui dit « Où tu ne peux pas dire tant mieux, dis tant pis, il y a là de très grandes promesses de bonheur ». Ce qui pourrait encore un peu rejoindre ce que vous venez de dire. La très grande présence de Gide dans cet essai-là pose évidemment question. Alors vous allez me dire que ça va encore être une question intime sur ce qui s'y trouve caché. Mais du coup, on se demande presque à la lecture qui de l'œuf ou de la poule, si au fond Gide vous a guidé dans ce projet-là, ou si vous êtes tellement gidien qu'il revient forcément quoi que vous écriviez.
J'ai des tics, je cite beaucoup Proust, Proust et Gide, et Quignard, c'est vrai, je les cite énormément. Il y a tout dans Gide, il y a 1000 défauts, une écriture un peu surannée parfois, il y a une beauté, une recherche éthique et de sincérité à laquelle j'ai cru, à laquelle je crois pas, à laquelle je tourne. Il y a un aveuglement incroyable sur son amour, sur ses relations amoureuses. Il n'y a pas lu le livre le plus drôle. Vous savez, parfois, on lit des livres, on se dit, mais pourquoi c'est pas moi qui l'ai écrit? Pas lu, c'est ce livre-là. Et puis, il y a le livre le plus raté, quoi. Il y a Coridon, qui pour moi est le livre. C'est un tel échec, Coridon. J'ai été persuadé qu'il allait révolutionner la société française en racontant, en expliquant, en justifiant. Il fallait surtout pas justifier, en justifiant son homosexualité. Donc, du coup, avec des thèses sur la nature, etc. et tout. Il planquait ce livre dans un coffre-fort, et ses amis, surtout Claudel, qui n'aimait pas trop ça. Mais Valérie aussi. J'ai retrouvé un jour dans la correspondance de Valérie, en latin de cuisine, qui écrit « On me raconte que J est homosexuel, je ne peux pas le croire. Si c'est vrai, j'arrêterai de le voir et tout. » C'est des choses incroyables. Et J était persuadé que c'est Coridon qui allait marcher. Le livre n'a rien. Il y a rien. Il y a tout dans J. Il y a l'échec. Moi, j'aime tout.
Alors, Myrto Gondika, c'est Michel Wolkovitch. Alors, je ne vais peut-être pas vous demander, à moins que ça ne vous soit venu dans la conversation, si vous avez eu des expériences d'X soir Pouk. Ouais, j'arrive presque à le dire. Mais l'intraduisible, hein, c'est, j'imagine, un os sur lequel vous butez assez souvent, l'un et l'autre. Si on suit donc l'hypothèse de Laurent Nunez, hein, et en s'en tenant à votre langue à traduire à vous, c'est-à-dire le grec moderne ou grec ancien et moderne, est-ce qu'il y en aurait un qui vous manquerait sérieusement en français, ou en tout cas un qui vous aurait ouvert des horizons de vie?
Il y a par exemple Meraki.
Oui.
Meraki, qui vient du turc merak, et qui est un mot contradictoire, qui est à la fois le vague à l'âme, le chagrin profond, et en même temps la passion, au point qu'on peut dire « je l'ai fait mais Meraki, je l'ai fait avec amour ». Et donc il y a à la fois ce sentiment négatif et le sentiment profondément positif qui est exactement l'inverse. Je trouve ça absolument fascinant.
Et que voilà. Vous traduisez comment quand vous tombez
dessus? Ah, bah, je l'attendais.
Avec souplesse.
Oui, alors, c'est au coup par coup, comme toujours en traduction. J'ai pas d'exemple sous les yeux, j'ai pas assez bien préparé, mais... mais on se débrouille toujours, on est toujours dans l'à peu près. On trouve des solutions partielles, par définition. Mais bon, c'est ça la traduction. La traduction, c'est gérer le désastre, c'est reculer en bon ordre, faire au mieux ou au moins pire. Voilà, donc nous, l'intraduisible, ça ne nous fait ni chaud ni froid, on est trop habitués.
Tout à fait d'accord, j'ai pas de mots particuliers qui me viennent là, ça viendra peut-être plus tard.
Alors, je voulais juste en profiter pour parler d'un dernier mot dans votre liste de 13, qui est sans doute celui qui me touche le plus. Je vais encore avoir un problème de prononciation, qui est donc précisément un mot grec, ça tombe bien, dans votre collecte, et qui est, alors, qu'on prononcerait comment?
Moi, du coup, je suis embêté devant vous. Moi, je dirais le scubalon.
Scubalon. pour lequel Laurent Nunez vous convoquait Paul de Tarse, Flaubert, Cocteau, Gide, on s'en serait douté, Platon, Éluard, Rimbaud, quelques traces d'Homère et quelques traces de Hugo. Et ça serait alors le contraire du Cymbolon, qui allait donner symbole, c'est-à-dire, alors c'est pas si simple, hein, c'est-à-dire ce morceau de terre cuite cassé en deux, qui permettait à deux personnes possédant chacun un morceau de cette terre cuite de se reconnaître ou de reconnaître leur lien si d'aventure ils étaient longtemps séparés. Donc évidemment, se pose la question de ce que serait que le contraire d'un symbole, puisque c'est ce que c'est devenu. Pourquoi on en aurait besoin, au fond, puisque c'est quand même l'objet de votre livre, pourquoi on en aurait besoin, alors qu'il a été rejeté par toutes les langues, y compris par le grec, d'ailleurs, je crois, ce terme-là, le skubalon, hein. Et surtout, au fond, qu'est-ce que ça pourrait dire justement des langues, hein, de la langue en tout cas, qu'il y aurait une forme de générosité des langues qui aurait enlevé ce skubalon qui serait donc juste ce morceau de terre cuite, non pas incomplet, mais c'est-à-dire qu'il n'aurait rien pour le compléter, ça serait ça en fait sa définition, ou est-ce que ça serait un rejet de l'inassorti, ou est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'inassorti, ou que l'inassorti serait une croyance?
Ouais, bah c'est ça. En effet, c'est ça. Toute notre pensée, c'est ça qui est incroyable avec les mots. On croit que c'est des mots et en fait, ça structure notre pensée. Je pense que toute notre mentalité est construite autour de la notion de symbolon. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui en rappelle une autre. Et en effet, les choses doivent être à leur place. Le symbolon, c'est ça, on prenait un morceau, on le cassait, et on pouvait, pendant des années, on pouvait pas se voir, et enfin, quand on se retrouvait, on avait peut-être beaucoup changé, mais les deux morceaux réunis prouvaient qu'on était de la même famille, du même clan, etc.
Les adolescentes font ça, voilà. Aujourd'hui, avec des petits colliers, mais, des cœurs et tout ça.
Voilà, la moitié du cœur que vous avez en collier, etc., c'est ça, c'est le symbolon. Et qu'est-ce qui se passe, d'un coup, s'il y a juste un morceau? Le grec a considéré qu'il y avait, que c'était rien, et le skubalon, c'est devenu le mot pour dire le déchet. C'est ce qu'on trouve jusque dans Saint Paul, avec et même Chouraki, encore plus, la traduction de Chouraki est encore pire, parce qu'il ne dit même pas déchet, il lui dit que ça veut dire ordure, carrément. Donc voilà, c'est-à-dire que du coup, il considère que ça ne sert à rien, qu'un objet seul, parce qu'il a été cassé, un moment, ne sert à rien. Moi, je trouve que non, je trouve que la solitude, le fait d'être incomplet, c'est peut-être la preuve, la trace de l'artiste, du philosophe, du poète. Et j'essaie de retrouver, je cite Baudelaire, Poe,
Gide,
c'est vrai. Oui, bien sûr. À un moment, on peut estimer que c'est pas parce qu'on est seul qu'on a tort. Vous savez, c'est parce que seul, on vaut quelque chose. Je cite Gide, mais je vais le raconter parce que c'est génial. Gide, à un moment, il raconte, c'est dans Si le grain ne meurt, si ma mort est bonne, il raconte qu'il est très jeune, il doit 6-7 ans, et il déjeune, et tout d'un coup, il déjeune avec sa mère, et d'un coup, il pleure, il a une crise de larmes, et il se réfugie dans la jupe de sa mère, et sa mère lui demande qu'est-ce qu'il y a, et Gide explique, il dit, je ne suis pas comme les autres. Et il se met à pleurer. Voilà. Ce sentiment-là, c'est un mot très important. Vous savez, Gide, il y a un mot qu'il adorait, c'est le mot idiosyncrasie. Voilà, c'est l'idiosyncrasie, c'est ce qui fait que je suis différent des autres. Voilà. Eh bien, à un moment, il y a des gens qui sont des éternels célibataires, en idées, en art. Moi, c'est les gens que j'admire. Flaubert disait ça des bohémiens. Vous voyez, je cite comme Flaubert qui vante les bohémiens et qui dit que voilà, ce sont les gens qui sont à part et qui sont très différents des autres qui ont décidé d'être sédentaires, de se coller, de se réunir. Vous savez, c'est le mythe de l'androgyne. Le mythe de l'androgyne dit que chacun trouvera sa moitié, à peu près. Vous vous rendez compte? On a donc besoin de sa moitié pour être complet. Non, visiblement, on peut être complet sans sa moitié.
Μάκι στα έχει χάσει και παλτούδια καινούρια πρέπει να αγοράσει. Μα το δικό μου κι αν είναι παλιό σε παλτό, φράγκο δεν δίνω κι ούτε νοιάζομαι γι' αυτό. Μα το δικό μου κι αν είναι παλιό σε παλτό, φράγκο δεν δίνω κι Nyasome
la grosse voix de Stratos, Vlaliver. Est-ce que vous voulez bien, Michel Volkovitch, nous le lire, ou nous la lire, puisqu'il s'agit d'une chanson?
Très volontiers. Donc, Bik Ohimonas en VO, Vlaliver en français, traduction assez libre. Pauvre populo, ça y est, Vlaliver qui rapplique. Faut des nouveaux paletots, partout c'est la panique. Mon pardeux, c'est foutu, il tiendra pas tout le mois. Mais tu sais que je m'en fous, moi l'hiver, ça me laisse froid. Quand ça caillera, quand les chicots feront des claquettes, moi je serai peinard entre tes bras et sous ta couette. Et si chez moi on n'a plus de feu dans la cheminée, tes bises toutes chaudes suffiront pour me rallumer. Et si un jour, poupée, on n'allume pas notre poêle, au fond de notre pieu moelleux, on ne sentira que dalle. Le radiateur qui chauffe le mieux, c'est les baisers, quand on se couchera, poupée, tous les deux enlacés. On se la coule douce, ma poule, quand les deux font la paire. Nous deux, du coup, on n'aura même plus besoin de lumière. On sera toujours au pieu à 9 heures au plus tard, pour mieux se cacher du froid de canard et du blizzard.
Merci. Vlaliver, donc, un rebetiko daté de 46, je crois, signé Panayotis Tundas. J'espère qu'on aura le temps d'en parler aussi, qui est donc l'autre grand compositeur de rebetika avec Tsitsanis. Une chanson que vous avez choisie, Michel Volkovitch, que vous avez forcément traduite dans La Grèce de Londres, parue en 2 volumes aux éditions Le Miel des Anges. Qu'est-ce que cette voix-là, celle qu'on a entendue, donc la grosse voix de Stratos, qui était donc ce chanteur venu d'Asie mineure, comme beaucoup, enfin en tout cas comme tous les chanteurs de rebetiko, comme la plupart des musiciens de rebetiko, qu'est-ce que cette voix-là vous fait, lui, dont on disait qu'il avait des rossignols dans la voix? Parce que c'est sa voix à lui que vous avez demandé à entendre.
La chanson, d'abord, me plaît entre toutes pour diverses raisons, par rapport à son humour, sa verve, et aussi pour des raisons sentimentales, parce qu'elle nous rappelle qu'en 46, déjà, les Grecs peuvent être froids en hiver, et c'est toujours le cas, puisqu'il y a un certain nombre de Grecs actuellement qui n'ont plus de quoi se payer le chauffage. Voilà. Donc, il y a les paroles elles-mêmes. Et puis, c'est vrai que ce Stratos Paiomtsis est inimitable. Je suis très étonné par cette comparaison avec le rossignol. C'est vraiment pas l'oiseau que j'imagine. D'abord, c'était un gros bonhomme.
Plusieurs rossignols,
voilà.
Peut-être.
Ouais, et sa voix est inimitable. Elle a une espèce de gouaille, de bonhomie en même temps. Elle est charnue, elle est ronde, elle est marrante. Donc, chaque fois que j'entends cette chanson, je me régale et je m'en lasse pas.
Vous dites que sa voix vous hante au point qu'elle vous a dicté sa cadence. C'est-à-dire, ça veut dire que cette voix-là vous a aidé à traduire?
Oui, bien sûr. Enfin, c'est surtout la musique. La musique qui est toute simple, mais qui est très, très, très forte en même temps. D'ailleurs, c'est la musique des Rebetika qui a l'air un peu simplette au départ et en fait assez riche avec des rythmes souvent différents et puis surtout très souvent le rythme du Zeibekiko qui est un rythme à 9 temps qui est absolument envoûtant parce que c'est un peu impair, un peu boiteux, un peu planant. Voilà. C'est pas le cas de cette chanson-là.
Est-ce que ça veut dire alors que ça se danse? Alors, bon, il y a plusieurs sortes, mais est-ce que ça veut dire que ça pourrait se danser, justement, de façon un peu boiteuse et planante, hein? Parce que je pense notamment au texte de Jacques Lacarrière, qui a participé au premier volume de La Grèce de l'ombre, qui parle de la danse comme à la fois un plaisir et une épreuve.
Alors, ces chansons étaient non seulement, sont encore, d'ailleurs, non seulement chantées, mais très souvent dansées. C'est fait pour, si vous voulez, à ce rythme de Zeibekiko correspond une danse très particulière. En principe, si on suit la tradition, c'est un homme seul qui danse, qui se lève. Il est debout, il va tourner lentement sur lui-même, avec des gestes lents des bras, il va se baisser. Enfin, il y a toute une gestique qui appartient à une espèce de répertoire, mais qui est en même temps improvisée. Et qui vient du fond des temps, qui vient de Turquie. On ne sait pas trop exactement d'où ça vient, mais c'est un véritable rituel. Et par ailleurs, dans les chansons qui ont un rythme pair, c'est plutôt le Hasapiko. La danse des bouchers de Constantinople. Alors là, Théoriquement, c'est deux ou trois hommes qui se tiennent par les épaules et qui font quelques pas, eux aussi, assez codifiés. Mais la danse est partie intégrante de ces chansons et elle est dans la musique, elle est dans les paroles. C'est peut-être pas sa voix personnellement qui m'a guidé, mais c'est le balancement, le swing, je dirais, de ces chansons. Et quand on traduit bien, on est guidé par le rythme. On traduit avec les oreilles.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Son âge d'or, hein, ces chansons-là, en tout cas c'est ce que disent les puristes, mais j'imagine que vous aurez à y redire, se situerait entre les deux guerres, hein, en général, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire après la grande catastrophe, après la guerre gréco-turque, jusqu'à l'occupation allemande, hein, même si sous la dictature de Metaxas, c'était clandestin, mais on a continué à pratiquer ces chants-là, et après la guerre, on dit, enfin en tout cas, que ça aurait changé, c'est-à-dire qu'on chanterait peut-être de façon moins sombre, hein, comme le montre d'ailleurs votre second volume. On y parle peut-être plus d'amour, peut-être un peu moins de haschich, et puis progressivement les historiens vont s'y intéresser, la bourgeoisie va s'y intéresser aussi. Alors est-ce que vous êtes de ceux qui pensaient justement que le Rebetiko a une histoire bien close, bien fermée, et qui se situe vraiment entre ces deux bornes-là? Ou est-ce que les réformes qui ont suivi ont votre validation?
Alors, je ne suis pas du tout puriste.
On s'en serait douté.
Donc, j'adore la première période, donc entre 1920 et 1940, en gros. C'est donc la période la plus authentique, les Rebetika pur et dur, avec des compositeurs, paroliers, interprètes plus amateurs, des paroles un peu plus rudimentaires, disons. Et puis, pendant la guerre et après la guerre, le Rebetiko va donc opérer une espèce de mutation. Il va devenir plus raffiné. On peut opposer par exemple Van Vaccaris, qui était le grand nom de la première période. Il était garçon boucher, il avait fait juste l'école primaire, je crois. Ses chansons sont admirables. Et puis le grand nom de la seconde période, c'est Vassilis Tsitsanis, qui lui, il aurait pu aller en fac. Il a préféré faire de la musique.
Mais dont on a dit aussi qu'il a occidentalisé un petit peu.
Alors il a un petit peu occidentalisé. Les paroles sont plus élaborées, disons. Mais j'ai envie quand même d'effacer un petit peu ce fossé, parce que il y a quand même une grande continuité. C'est à peu près la même musique, c'est toujours les mêmes rythmes de base, c'est la même ambiance. Alors les instruments, là aussi, il y a un fil qui continue, c'est le bouzouki. Au départ, il n'y avait pas que le bouzouki, mais il s'est imposé, mais il était déjà présent au tout début. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1950, le Rebetiko, qui auparavant avait été pourchassé, voire même censuré, il était attaqué à la fois par la droite bien-pensante et par les communistes, parce que ça parlait de drogue, puis d'amour libre, des trucs, enfin bon. Donc, le Rebetiko, peu à peu, est accepté par toute la société grecque, et du coup, il en meurt. Eh oui, parce que c'était une graine de voyou, et qu'à partir du moment où on lui mettait une cravate, ça ne le faisait plus. Donc en 1960, on arrête d'en composer pratiquement. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'on continue de le jouer, de l'écouter. Et actuellement, c'est devenu presque un chant national pour les Grecs. C'est-à-dire que tous les Grecs l'aiment. Hein, il y a plus de question de morale là-dedans. Tous les Grecs l'aiment à peu près et tous s'y reconnaissent.
À quel moment, justement, la question de son enjeu national s'est posée?
Alors, les rébètes étaient à l'origine des marginaux, des mauvais garçons. Et puis, il y avait la drogue, il y avait tout ça. Donc, c'était socialement...
La prison.
Ah oui, forcément, la misère, la prison. Donc, c'était inacceptable pour une société normale, quoi. Et puis, bon, bah, tout ça, avec le temps, c'est devenu un peu du folklore. Et c'est vrai que le côté drogue s'est considérablement amenuisé. Et on a parlé davantage d'amour, des choses comme ça, qui étaient plus consensuelles. Mais même les chansons sur la drogue, maintenant, on les écoute sans problème.
Alors, on écoute justement ce que ça donne après-guerre, c'est-à-dire passé par Tsitsanis. C'est donc signé Tsitsanis, hein, c'était encore Stratos qu'on entendait d'ailleurs, pas que, puisqu'il était là pas tout seul. Et je me demandais, et là c'est plus au traducteur Michel Volkovitch que je m'adresse, entre ces deux moments, c'est-à-dire avant-guerre et après-guerre, donc cette réforme du Rebetiko que certains regrettent, d'autres non, vous en êtes la preuve. Qu'est-ce que ça change dans la langue elle-même, c'est-à-dire et dans le vocabulaire et dans la grammaire?
Il y a peut-être l'argot. On trouve dans les chansons anciennes certains mots typiquement, enfin qui appartiennent typiquement à cette petite société contre-société des rébètes, mais c'est quand même assez marginal. Il y a dans ces chansons et en grec en général finalement moins d'argot que dans les équivalents éventuels français.
Alors justement dans le petit texte, l'un des textes qui suit l'une de ces anthologies, vous expliquez un peu honteusement, c'est vous-même qui le dites, que vous avez dû doper un petit peu au fond cet argot qui précisément est moins présent en grec et néanmoins devait l'être dans sa version française.
Oui,
pourquoi
oui.
Fallait-il argotiser si
ce terme alors existe il faut le faire avec discernement. Mais j'ai un exemple tiré d'un autre ouvrage, un récit de Chronis Missios, Toi au moins tu es mort avant. C'est un livre oral. Le héros est emprisonné à l'âge de 16 ans pendant la guerre civile. Il est illettré. Il apprend à écrire et à lire en prison. Et donc il raconte toutes ces mésaventures dans une langue extrêmement orale. Et pour désigner les prisonniers, il a le mot kratoumenos, dont l'équivalent français est détenu. Je ne pouvais pas employer avec lui le mot détenu en français, ça aurait choqué. Ce mot dans la bouche d'un prisonnier qui parle à un copain prisonnier, ça ne passe pas. Donc, j'ai employé tolard pour retrouver un petit peu la vraisemblance linguistique. Et d'une manière générale, oui, c'est bon de rajouter une petite épice là, dans des textes qui, sinon, paraîtraient en français plus soutenus qu'ils ne le sont en grec. Je ne m'autorise pas à ça dans tous les cas, mais là, je me suis lâché un petit peu et j'ai pensé que le fait de se lâcher, d'y aller, de déconner un peu, comme dit Laurent, ça rend quelque chose de l'ambiance, de façon indirecte. Il y a une espèce de jubilation, quoi. Et donc, on traduit quelque chose d'intraduisible en contournant, si vous voulez. C'est l'une des nombreuses petites ruses du traducteur.
C'est ce qu'on appelle faire le malin, dites-vous, Michel Volkovitch. Ce n'est pas bien, j'ai honte, mais je recommencerai.
Voilà, oui, j'ai bien résumé, c'est un peu contradictoire, mais enfin, en traduction, on est tout le temps dans le contradictoire.
Alors, en revanche, une chose sur laquelle vous n'avez pas transigé, c'est le vers, maintenu, alors que ce soit là pour ces chansons-là, mais c'est aussi le cas de manière générale, dans votre façon de traduire et dans vos principes de traducteur, c'est-à-dire s'en tenir effectivement au vers et s'en tenir même à la rime. Et vous en parlez tant, Michel Volkovitch, que je me demandais quel était, ce plaisir que vous évoquez tout le temps, qui est ce plaisir particulier à traduire le vers. C'est-à-dire vous parlez presque de volupté à traduire le vers ou d'ivresse à traduire le vers. plus que toute autre forme.
Les écoles s'affrontent. Il y a des gens qui estiment, des gens respectables, qu'on ne peut pas traduire en vers parce que ça implique beaucoup trop de manipulation. C'est vrai qu'on va s'éloigner forcément du texte original. On ne va pas rester dans le mot à mot. Mais pour moi, ce n'est même pas une question de théorie, c'est viscéral. C'est viscéral parce que moi, pour moi, un texte, d'abord, c'est vivant, ça bouge d'une certaine façon. Et puis, c'est un texte, c'est de la musique avant tout. La chair du texte, c'est de la musique. Et moi, donc, je répète, je traduis avec les oreilles, mais même avec mes tripes. Si je sens pas le balancement du texte et si je n'arrive pas à le restituer, pour moi, c'est foutu, ça n'a pas de sens. Bon, alors là, pour entrer dans les confidences personnelles, après tout, moi aussi je m'y mets.
Je vous en prie.
J'ai été musicien longtemps, j'aimais la musique, elle ne m'aimait pas. J'ai arrêté, pour continuer avec la musique des mots. J'aurais voulu être danseur, c'est raté aussi complètement. Et donc, je danse avec les mots. J'essaye de les faire danser.
Myrto Gondikas, traduire avec les oreilles, hein. Vous partagez ça? Ou est-ce que vous
200%,
comprenez
200%. Avec peut-être une nuance, est-ce qu'on peut en parler tout de suite?
Mais bien sûr.
Qui est que c'est tellement évident qu'on pourrait se laisser entraîner ou décider tout à fait lucidement d'en faire le premier critère et parfois le seul. Et je pense ici à une prouesse qui est, en un sens, la traduction de l'Iliade récente par Philippe Brunet, helléniste, homme de théâtre aussi, qui s'est donné comme programme d'inventer ou de réinventer, je ne sais pas, un hexamètre français. Un hexamètre, c'est-à-dire, à la base, ce sont des alternances réglées de syllabes longues et brèves, qui n'existent pas en français, donc l'équivalent, ce seront les accents naturels des mots, hein, pour aller vite. Disons que, par exemple, si on dit « formidable », ça va être l'équivalent de... Bon, je suis dans une autre métrique, c'est un anapeste, mais deux brèves et une longue. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Et à partir de là, les dizaines de milliers de vers de l'Iliade, il les a, transportés dans ce moule. Donc c'est remarquable. Et quand on l'entend lire avec son expérience, sa voix, il y a un charme qui opère parfois. Moi, je suis tombé sous ce charme. Et on se dit, oui, voilà, ça danse. Et puis ensuite, si on a le livre sous les yeux et qu'on y va, on s'aperçoit que, bien entendu et nécessairement, et c'est inévitable, le fait de mettre un critère comme celui-là, oral, avec AU, en premier, fait que les autres reculent. Et par exemple, ce qui sera la distinction des registres de langue, ou l'exactitude des formules chez Homère, ou la construction d'un épisode, ou plein de choses comme ça... en prennent pour leur grade parce que l'hexamètre français exerce sa, j'aimerais presque dire, tyrannie. C'est juste un exemple qui me vient à l'esprit parce que justement, c'est une tentative extrême et qu'elle illustre un petit peu la lutte des nécessités adverses. Voilà, en traduction une fois de plus.
Perpato και νυχτώνει. Αποφασίζω και νυχτώνει. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Υπήρξα περίεργη και μελετηρή. Ξέρω απ' όλα, λίγο απ' όλα. Τα ονόματα των λουλουδιών όταν μαραίνονται, πότε πρασινίζουν οι λέξεις και πότε κρυώνουμε. Πόσο εύκολα γυρίζει η κλειδαριά των αισθημάτων με ένα οποιοδήποτε κλειδί της λησμονιάς. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα μέρες με βροχή, εντάθηκα πίσω από αυτό το σειρματόπλεγμα το υδάτινο, υπομονετικά και απαρατήρητα, όπως ο πόνος των δέντρων όταν το ίστατο φύλλο τους φεύγει και όπως ο φόβος των γενναίων. Όχι, δεν είμαι λυπημένη. Πέρασα από κήπους, στάθηκα σε συντριβάνια και είδα πολλά αγαλματίδια να γελούν σε αθέατα αίτια χαράς.
Ο Κίκη Δημουλάκ, alors là, c'est lors d'une lecture, hein, qui est donc cette poétesse qui est née au tout début des années 30, hein, si je ne me trompe.
Elle va sur ses 90 ans, si voilà. Ça n'est pas déjà fait.
Monument, bientôt.
En voilà. Grèce, oui. Voilà. Traduite.
Elle est 31.
31, voilà, c'est ça. Traduite évidemment en français. Que vouliez-vous nous faire entendre par elle, par cette voix? Et je repense aussi notamment à la question de la traduction dont vous venez justement de nous parler avant qu'on écoute cet extrait.
Peut-être un timbre qui m'est cher et puis aussi une cadence. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas l'image parce que c'est tiré d'une vidéo.
C'est dommage qu'on n'ait pas la traduction surtout.
Il faut demander Michel.
Bon,
c'est le poème
prévenu,
Père mais... à ça. Je ne sais pas comment tu dis.
C'est quel poème?
Je ne sais Père pas. À ça dans le Toliho tu Cosmo, le peu du monde s'appelle le recueil.
Oui.
Et il y a un vers qui revient comme un refrain. Oh, hi den emelipimeni non. Je ne suis pas triste ou je n'ai pas de chagrin, je ne sais pas comment tu as dit. Voilà. Et elle énumère toutes sortes d'expériences, de vécu. Là, on a coupé, mais c'est un poème qui est très long. Et toujours ce refrain qui vient. Et je voulais aussi faire entendre la cadence d'un vers qui n'est pas contraint, comme on dit. Hein, il n'y a pas de régularité métrique préexistante, mais il y a quand même ce rythme très, très, pour moi, très sensible. Et qui, lorsqu'on se met en tête ou en devoir de le transposer, disons en français, va effectivement à la fois nous torturer puis nous guider. Il faut quand même rendre le sens, la phrase, si possible l'ordre des mots, et puis le vers a sa propre logique, comment il avance. Parfois, elle se tresse, elle se combine à la logique de la syntaxe, sans être identique. Hein. Un exemple tout simple, c'est quand un vers enjambe, ça arrive même dans le vers libre, bien sûr. Ces deux logiques qui sont à l'œuvre, il faut les retrouver en français avec les règles du français qui font que parfois, ben, on peut pas mettre n'importe quel mot au début, mais on peut quand même tenter, et Michel explique ici et là qu'il le fait de plus en plus, je crois, tenter d'assouplir un petit peu les habitudes du français pour suivre du mieux qu'on peut l'ordre de la langue grecque et de cette poésie en particulier.
Surtout quand il s'agit d'une poétesse qui fait la même chose dans sa langue.
Voilà.
Qui la tord un petit peu.
Voilà, c'était ma question, c'est-à-dire de la difficulté particulière à traduire Kiki Dimoula, justement, du fait de son traitement de la langue.
Ah oui, parce qu'elle a à la fois une grande liberté, elle invente des termes, et puis elle a des points de vue surprenants. Elle peut vous parler dans la même phrase d'abstractions les plus absolues, et puis de petites choses tout à fait concrètes, et elle y arrive. Et voilà, on est entraîné avec elle. Ça, c'est vraiment remarquable.
Alors, elle prend place, comme prennent place la Grèce de l'ombre dans le catalogue du Miel des Anges, qui traduit donc à tour de bras. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, Michel Volkovitch. J'en fais tomber les livres. Pour beaucoup par vous, parfois par d'autres, comme Myrto Gondikas, puisque vous participez également aux traductions de la maison d'édition de Michel Volkovitch.
Qui veut bien m'inviter depuis quelques années maintenant.
Donc c'est très familial. Il y en a quelques auteurs du siècle passé, je pense notamment à Cavafis, à Elitis, mais il y a là, et surtout des poètes contemporains, vivants, inlassablement traduits, ce qui, dites-vous, est commercialement suicidaire. Qu'importe. Et je me demandais quelle était la place, justement, de ces poètes-là, qui, au fond, sont quand même relativement traduits en France, c'est-à-dire des poètes contemporains vivants grecs, leur place en Grèce, c'est-à-dire comment ils étaient relayés en Grèce par rapport à ici où je vois qu'on a quand même quelques difficultés avec la poésie française, un petit peu.
Bel euphémisme.
et en même temps. Il y a quand même en même temps beaucoup d'énergie, il faut le dire, mais en tout cas des difficultés de diffusion. Et je me demandais si les difficultés étaient relativement similaires en Grèce ou si la Grèce avait su garder ce rapport très particulier à la poésie, y compris d'un point de vue de l'édition.
Je ne sais pas, Michel le dirait mieux que moi, mais si vous écoutez les poètes grecs, ils disent « mais on n'est pas lu, il n'y a pas de lecteur, on peut être édité ». Et en fait, mon impression en allant en Grèce, et par une simple comparaison, est que quand même, la poésie existe beaucoup plus sur la scène quotidienne des gens, et pas seulement des gens cultivés, jusqu'à très récemment, peut-être encore aujourd'hui, ça passait en partie et très volontiers par la chanson. Il y a de très grands poètes qui sont sans doute encore des paroliers de chansons, mais vraiment énormes. Alors nous, si on pense au phénomène, ça sera Aragon, mais Aragon, c'est il y a, vous voyez combien de temps. En Grèce, c'est beaucoup plus courant, beaucoup plus.
Oui, tout à fait. Ils sont plus proches que nous de leurs racines. C'est-à-dire que pendant très longtemps, sous la domination turque, pendant des siècles, ils n'avaient comme œuvre que des chansons populaires, qui sont absolument admirables. Ensuite, tout ça c'est un peu raffiné, embourgeoisé, mais ils sont allés moins loin que nous dans la rationalisation. Le roman, par exemple, qui l'emporte chez nous, c'est toute une construction sociale. Il faut une certaine société pour fabriquer du roman, un certain rationalisme. Les Grecs sont restés, ils seraient peut-être pas contents qu'on le dise, mais enfin, ils sont restés plus proches de l'instinct, du spontané. Et la poésie, c'est vraiment leur langue maternelle.
Myrto Gondikas, Michel Volkovitch et Laurent Nunez, c'est presque la fin de cette émission. Merci à tous les trois, je vous laisse la conclure entre vous et sans moi. Alors, excellente après-midi à toutes et à tous.
Alors, maman n'est pas là? Qu'est-ce qu'on va faire comme bêtise?
Stéphane, en tout cas, vous prenez une phrase presque enfantine, et moi, j'étais en vous écoutant comme un enfant. J'ai pas dit un mot parce que je vous écoutais, du coup, j'étais beaucoup plus en tant qu'auditeur qu'invité. Il y a un plaisir dans ce qu'on sait pas. Moi, je suis complètement ignare dans la poésie grecque. Et donc, tout d'un coup, il y a une sorte de terra incognita.
Tu n'es pas seul. Ouais.
C'est génial. Il y a un plaisir de se dire, il reste tout ça encore. Il y a encore ces morceaux-là, ces pans-là à découvrir.
Mais disons que, oui, on a beaucoup parlé de plaisir, de jouissance. Alors, ça vient de la poésie grecque elle-même, qui est d'une belle richesse. Il y a des trucs admirables. Puis ça chante beaucoup. Puis il y a aussi le plaisir de traduire lui-même. Je plains beaucoup certains traducteurs qui portent leur souffrance en sautoir à traduire, la torture, le mot juste et tout ça.
Le sacrifice, le sacerdoce.
Ouais. Alors, là, je suis carrément dans l'hédonisme parce que le seul fait de travailler avec les mots, non, c'est pas le mot, de jouer avec les mots. Hein. C'est comme le bébé qui manie de la pâte à modeler. Hein. On a les mains dans les mots. C'est formidable.
On dit que c'est un travail de passeur, c'est une sorte de générosité, mais en fait, il y a un plaisir.
Ah, c'est totalement
individuel.
C'est aussi totalement égoïste.
C'est le en même temps fameux de nos jours.
Ouais. Ah, c'est dommage, on n'aura pas le temps, mais j'aurais aimé rebondir aussi sur ton livre, Laurent, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de profit, je crois. Ça ouvre des portes. Et en même temps, je suis assez déchiré parce que j'imagine un monde où toutes les choses auraient un mot correspondant et je me dis que ce serait la fin des traducteurs. Parce que il suffirait de mettre une machine à la place.
Oui.
Et avec le mauvais esprit qui nous caractérise souvent, je voulais faire l'éloge, par exemple, d'un Racine qui, avec le moins de mots possible, arrive à suggérer les moindres nuances.
Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu parles, ça me rappelle, Mallarmé, il le dit sur le défaut des mots.
Oui.
Il dit, sinon, n'existerait pas le vers.
Voilà.
C'est-à-dire que voilà, il y a les mots sont, il y a aucun rapport en plus signifiant-signifié. Il y en a certains qui désignent 10 choses à la fois. La souris est autant un objet technologique qu'un animal. Et heureusement, parmi ce défaut, il y a créé un mot pur de la tribu, c'est le vers. Et ce vers n'existe que parce que, initialement, c'est raté du côté du langage.
Oui, 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 et c'est toujours quelque part raté. Donc il faut continuer.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Delia pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Je rappelle que le festival VOVF, en présence de Michel Volkovitch et Myrto Gondikas, se tient encore demain et après-demain à Gif-sur-Yvette. Pour être complète, vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, partager et podcaster sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique de Nicolas Martin.